Bonjour à tous. Dans le cadre de notre journée spéciale, le modèle noir, pensé à l'occasion de l'exposition événement du musée d'Orsay, on va inverser la proposition dans la deuxième partie de l'émission avec Histoire des Blancs, ouvrage paru chez Max Milo, où Nell Irvine Painter étudie et décrit comment la notion de race blanche s'est construite dans l'histoire, de l'Antiquité à aujourd'hui. Professeure émérite à l'université de Princeton, l'historienne afro-américaine sera notre invitée à partir de 12h55. Mais d'abord, quand Josephine Baker jouait avec les Côtes du Noir, star du musical, la chanteuse danseuse américaine a imposé son style et sa couleur sur les scènes de Broadway puis de Paris. Avec nous pour en parler l'historien Pape Ndiaye, membre du comité scientifique de l'exposition, qui est un peu notre fil conducteur sur la journée puisqu'il était déjà présent dans les matins de Guillaume Erner, et rencontre avec la soprano Magali Léger qui se produira lors du concert Josephine Baker Paris Mon Amour le 11 avril à l'auditorium du musée d'Orsay.
La grande table. Olivia Gesbert.
Après un beau livre noir entre peinture et histoire de Grégoire Fauconnier et Neil Verhendoey, paru à l'automne dernier sur la représentation des Noirs dans la peinture européenne du 14e au 20e, le musée d'Orsay se penche à son tour sur la relation entre l'artiste et son modèle noir. Titre de la grande exposition qui s'ouvrira mardi de Géricault à Matisse. Elle ne pouvait que trouver sa place dans ce panorama historique et artistique. Josephine Baker, une icône noire.
Chagrin, j'admirais dans les magasins le teint pâle de poupées blondes. J'aurais voulu le ressembler et je disais l'air accablé, me croyant tout seul brune au monde. Je voudrais être blanche, pour moi quel bonheur. Si mes seins, mes hanches changent de couleur, les Parisiens à joint le pain se faisaient croire au soleil d'exposer leur rein pour être noir. Moi pour être blanche, j'allais me roulant parmi les avalanches en du Mont Blanc. Ce stratagème d'un Aveyron, j'avais de l'air dans la crème d'un petit pruneau. Sachez que mon bonheur, qui près de vous y penche, garderait sa couleur. Au soleil, c'est par l'extérieur qu'il en se dort. Moi, c'est la flamme de mon cœur qui m'en colore. Et si ma figure, mon corps s'embrunit, c'est parce que la nature me voulait ainsi. Mais je suis blanche, dites-moi monsieur, faut-il que je sois blanche pour vous faire mieux?
Pape Ndiaye, bonjour.
Bonjour.
Faut-il que je sois blanche pour vous plaire mieux? C'est par ces mots que Josephine Baker termine sa chanson « Si j'étais blanche ». Peut-on aujourd'hui répondre à cette question? Si elle avait été blanche, aurait-elle plu mieux?
Sa carrière aurait été très différente puisque elle a joué, bien entendu, dès son arrivée à Paris en 1925, des stéréotypes habituellement liés au corps de la femme noire. Et donc, sa carrière, en tout cas, à Paris à partir de 25, est entièrement liée à son être et à sa présence de femme noire, une femme noire qui s'affirme, évidemment, avec beaucoup de force et qui prend la parole.
femme artiste, Joséphine Baker a-t-elle pour vous subi sa couleur, en tout cas dans ses premières années de sa vie? Est-ce que ça a été source de stigmates pour elle?
Certainement, elle naît aux États-Unis à Saint-Louis en 1906, à un moment où la ségrégation est déjà très très fermement en place dans son état natal, dans un milieu qui est un milieu populaire. Son père disparaît dans la nature, sa mère qui danse un peu dans les cafés de Saint-Louis essaie de faire vivre sa famille. C'est une existence précaire qui est aussi marquée par les violences raciales. En 1909, elle n'a que 3 ans, il y a de très graves émeutes raciales à Saint-Louis qui auraient d'ailleurs pu coûter la vie à sa propre mère. Donc elle a une expérience, Joséphine Baker, de la violence. Elle a eu aussi une expérience des discriminations lorsqu'elle est à New York au début des années 20 et qu'elle essaie de s'employer comme danseuse. C'est très compliqué pour elle et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle s'installe, entre autres pour cela qu'elle s'installe à Paris en 25.
Il était plus facile dans les années 20 d'être une artiste noire en France qu'aux États-Unis?
Ô combien, et c'est pour ça d'ailleurs que tant s'installe à Paris, en France en général, en Europe aussi. À partir de ce moment-là, le mot s'est répandu aussi parce que 200 000 soldats noirs américains arrivent en France à partir de 1917 et 18. Une partie de ces soldats reste après la Première Guerre mondiale, se met à la musique en particulier pour profiter de la passion pour le jazz. Et puis on apprend très vite aux États-Unis qu'en France, on peut s'asseoir à la terrasse d'un café, être servi par un serveur blanc sans créer une émeute, que l'on peut converser quand on est un homme noir avec une femme blanche sans que cela soit vu comme un scandale et que l'on risque sa vie et que l'on peut aussi gagner sa vie tout simplement comme artiste. Et là, c'est une longue tradition qui remonte d'ailleurs au 19e siècle, mais qui s'accentue très fortement dans les années 20. Joséphine Baker, elle fait partie d'une immense cohorte d'artistes noirs américains qui s'installent en France à ce moment-là.
Pour l'exposition, vous rappelez quelques dates précieuses pour situer et comprendre la percée de cette étoile noire sur la scène française, notamment la création de la revue Nègre au temps des Champs-Élysées, au théâtre des Champs-Élysées qui la révèle en 1925, a lieu 4 ans après le premier prix Goncourt décerné à un écrivain noir, René Maron, 10 ans avant l'intervention du terme négritude par Aimé Césaire dans la revue L'étudiant noir et 6 ans avant la dernière exposition coloniale à Paris. Comment qualifier l'époque pour qu'on la comprenne bien?
C'est une époque, celle de l'entre-deux-guerres, qui est caractérisée à la fois par, en tout cas à Paris, une atmosphère que l'on qualifie de négrophile, c'est-à-dire un engouement pour les mondes noirs, avec tous les stéréotypes attachés à cela, un engouement pour l'exotisme, dont Joséphine Baker, évidemment, va jouer avec beaucoup d'intelligence, et puis en même temps, une réalité plus sombre, plus triste, pour le monde populaire noir qui vit à Paris, à Marseille et à Bordeaux en particulier, de petits métiers ouvriers, des dockers de Marseille, des marins ou des débardeurs, comme on disait, de Bordeaux, voire de Nantes. Donc tout un monde populaire qui, lui, évidemment, subit des avanies, du racisme, des discriminations. Donc il y a 2 branches, en quelque sorte, l'une un peu plus brillante que l'autre, qui compose cette vie française et cette présence noire dans la population française de l'époque.
Et vous rappelez aussi la naissance d'un féminisme noir en France dans les années 20 aussi. Tout ça, ça a joué de ce contexte-là, c'est-à-dire qu'il y avait une sorte d'élan de, en tout cas de reconnaissance ou de résistance qui se mettait aussi en place dans les mentalités.
Oui, avec en effet, à propos de du féminisme noir, ces sœurs martiniquaises, auxquelles d'ailleurs on s'intéresse de plus en plus ces temps-ci, les sœurs Nardal, Jeanne et Paulette en particulier, qui animent à la fois leur salon littéraire à Clamart, et puis aussi qui sont traductrices d'œuvres écrites en anglais par des artistes américains, qui jouent un rôle important d'animatrices intellectuelles et que l'on peut considérer, en particulier Paulette, avec sa revue du monde noir créée en 1931, comme des précurseurs de la négritude, un peu oubliée aussi parce que ce sont des femmes, qu'elles sont reparties vers la Martinique à partir de la fin des années 30 et dans les années 1940. Et puis elles témoignent en effet d'un monde noir militant, de ce que j'appelle une subjectivation politique noire, avec des organisations noires ou nègres, comme on les appelait aussi à l'époque, proches parfois du Parti communiste, et qui réclament l'égalité des droits, qui réclament également, dans le monde colonial, une férule un peu moins dure.
Et ça, c'est un cercle dans lequel Josephine Baker va évoluer, elle va s'en approcher ou elle restera un peu à la marge dans ses premières années, cette première décennie française ?
Dans les premières années, elle est plutôt prudente d'un point de vue politique. Son engagement politique va s'affirmer dans les années 30 et il va devenir ô combien important et définir sa vie à partir des années 40 et par la suite. Lorsqu'elle arrive en 1925, elle est un peu prise en main aussi, elle devient une vedette extraordinaire du jour au lendemain, le 2 octobre 1925, avec la revue nègre du théâtre des Champs-Élysées qui se relance, il est au bord de la faillite, donc le théâtre se relance comme ça. Elle a une popularité extraordinaire, mais elle ne parle pas encore français à ce moment-là, elle est encore, elle découvre la France également, elle est promenée de spectacle en spectacle, sa voix spécifique, en particulier politique, ne s'est pas encore tout à fait affirmée.
Et du coup, elle n'est pas non plus mise de côté ou méprisée par ses cercles militants engagés. Au contraire, elle est tout de suite perçue comme l'une des leurs.
C'est relativement ambigu. Par exemple, Paulette Nardal a des mots assez durs pour Josephine Baker qui lui semble prolonger tous les stéréotypes habituels qui portent sur les femmes noires. La femme exotique, érotisée, dénudée, qui se trémousse devant des décors de carton-pâte avec des faux palmiers et puis des pagnes de bananes. Pour une Paulette Nardal qui milite pour un féminisme noir affirmé, Josephine Baker, qu'elle appelle cette princesse exotique, est plutôt quelqu'un qu'elle critique comme étant une personne qui finalement valide les stéréotypes qu'elle-même combat.
C'est ça, et elle a dû s'en justifier après, Josephine Baker. Vous citez ces modèles poussés par des forces sombres que je ne connaissais pas. J'improvisais, enivré par la musique, le théâtre surchauffé et comble à craquer sous la chaleur des projecteurs. Elle va imposer son style, hein, cette danse qu'elle qualifie elle-même d'étrange, ni africaine, ni afro-américaine, sensuelle, primitive, et en ce sens qui a inspiré ou évoquait et confirmait des stéréotypes qui pesaient à ce moment-là sur les femmes noires.
Oui, elle se met au fond, elle comprend assez vite les goûts et les attentes du public français, un peu différent du public américain. Dans le public américain, elle dansait dans une revue, et dans les revues américaines de l'époque, les danseuses dansent de manière tout à fait coordonnée, mais il y en a une d'entre elles qui joue le pitre. Elle tombe, elle est complètement décalée par rapport aux autres, elle fait des grimaces. C'était Josephine Baker qui avait ce rôle-là à New York. Et puis en arrivant en France, elle s'aperçoit que l'imaginaire français est un imaginaire plus exotique, qui renvoie aux Antilles. Et au fond, elle joue la belle antillaise, finalement, Josephine Baker, plus que la noire américaine. C'est cet imaginaire colonial français dont elle va se saisir et dont elle va jouer avec évidemment beaucoup de clins d'œil et beaucoup de distance, parce que Josephine Baker n'est pas dupe.
Mais dans les arts de la scène, elle arrive aussi après l'acrobate Miss Lala du cirque Fernando, qui a été peinte par Edgar Degas en 1879. Elle arrive aussi après le clown Chocolat, qui était une des stars exotiques de la scène française au moment de la Belle Époque. Et puis, ils avaient l'un et l'autre déjà détourné un certain nombre de codes, ou pourra-t-on leur reprocher, conforter un certain nombre de stéréotypes. Elle va quand même imposer sa marque sur les scènes françaises.
Oui, ouais. Et elle se distingue en cela de, effectivement, cette histoire du music-hall avec sa part noire depuis la fin du 19e siècle, parce qu'elle apporte quelque chose d'autre. Là, elle garde l'humour, elle garde le comique de scène, mais elle ajoute un exotisme supplémentaire avec son accent américain qu'elle garde et qu'elle conforte avec une certaine coquetterie. Et puis, également dans sa vie personnelle, une forme une vie baroque en fait qu'elle montre très volontiers. Elle atteint un niveau de célébrité, de popularité, notamment par les images, parce que la plupart des Français la connaissent plus par les images que par la voix à ce moment-là, que aucune autre vedette d'avant la Première Guerre mondiale n'avait connue.
des non-dits de l'histoire de l'art qui sont racontés dans cette exposition à voir à partir de mardi au musée d'Orsay à ceux de la Seine. Joséphine Baker, première icône noire, extrait du documentaire qui lui est consacré, réalisé par Ilana Navarro et diffusé ce dimanche sur Arte.
Joséphine est bien consciente d'incarner elle aussi la sauvage. Mais elle va inventer une manière bien à elle d'occuper cette place dérangeante. Elle va se nourrir des fantasmes, les digérer, les transfigurer. Autour de ses reins, les bananes, symbole raciste par excellence, se transforment en trophées phalliques qu'elle agite sous le nez des spectateurs ravis.
C'est le concentré de tous les fantasmes positifs et négatifs. Enfin, je pense que à cette époque-là, tout bon bourgeois rêvait, s'il ne l'a pas fait, de connaître l'ivresse dans les bras d'une négresse. Et c'est cette fascination qui est à la fois malsaine et positive. Positive dans le sens où je pense que les gens sont admiratifs de sa liberté, même s'ils ne l'appelleront pas comme ça, ceux qui la consomment sur scène. Et les autres sont heureux de voir que, effectivement, le nègre est un animal un peu bizarre, qui fait des choses bizarres, qui se met tout nu, etc. Donc les baveux bavent, les intellectuels intellectualisent et le bon public s'amuse. Donc il y en a pour tous les goûts.
Un concentré de fantasmes, nous dit Simon Njami, fondateur de la Revue Noire. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant dans le fil tiré par l'exposition, celui de la figure du modèle, c'est qu'on peut, comme avec Joséphine Baker, à la fois interroger ce que le modèle incarne, la manière dont il est représenté, et aussi et surtout la manière dont il est regardé. Et là, c'est ce qu'il nous raconte, le regard que nous posions, et ce que ça dit de nous à cette époque-là sur elle, sur scène.
C'est sûr, c'est le regard qui fabrique le modèle noir à bien des égards, mais pour Joséphine Baker, comme pour celles et ceux qui l'ont précédé sous le pinceau du peintre ou le photographe, ce sont des modèles qui ne sont pas simplement passifs sous le regard du peintre ou des spectateurs, ce sont des modèles qui sont également actifs, qui participent de la manière dont on veut les voir. Et ça, c'est une des grandes forces de l'exposition que de le montrer, que des œuvres que l'on pourrait presque qualifier de coproduites, finalement, à la fois par l'artiste, mais aussi par le modèle. Joséphine Baker allait photographier énormément à partir de 1925, mais elle participe, elle indique, elle dit au photographe la manière dont il doit la photographier. Elle indique l'angle de la caméra, elle est très précise sur ce qu'elle veut. Les photographies, ce sont les photographies des photographes, mais ce sont aussi ses propres photos. Elle est plus qu'un modèle.
Un hommage à l'artiste qu'elle était dans le cadre de l'exposition Modèle Noir, la soprano Magali Léger avec l'ensemble Contraste se produira lors du concert Joséphine Baker Paris Mon Amour. Ce sera le 11 avril à l'auditorium du musée d'Orsay à Paris. Au micro d'Oriane Delacroix, elle a évoqué ça, Joséphine.
J'ai deux amours, mon pays est Paris. Mon cœur est ravi, ma femme est belle, mais à quoi bon le nier, ceux qui m'ensorcellent, c'est Paris, Paris tout entier. J'ai deux amours,
ce qui me touche dans cette voix, c'est l'extrême fraîcheur. Je pense que c'est un enregistrement du début Elle a commencé à la chanter en 1930 et là elle a une voix encore toute fraîche et pas du tout la voix de la fin des années 60, début des années 70. Et la fraîcheur, le léger petit accent, cette jolie petite voix de tête, en fait, c'est très étonnant parce que Joséphine a commencé comme danseuse et elle a commencé à chanter seulement justement dans les années, au début des années 30, et elle avait cette voix déjà, cette jolie voix naturelle, toute frêle et toute fraîche et pleine de charme.
Et donc vous êtes une soprano habituée des plus grandes scènes de concerts et d'opéra. Vous chantez régulièrement Massenet, Donizetti, Mozart ou Offenbach. Comment est venu chez vous le désir de monter un spectacle autour de la figure de Joséphine Baker?
Alors, il faut rendre à César ce qui est à César. C'est l'ensemble Contraste. C'est Arnaud Torette, le directeur artistique de l'ensemble Contraste, que je connais très bien, qui est venu me voir un jour en me disant, mais moi, j'adore Joséphine. J'ai le projet de monter un concert autour d'elle. Mais alors, moi, tout de suite, j'ai dit, mais ça va pas, non. Joséphine, c'est une icône. Enfin, c'est impossible d'y toucher pour moi. Et il m'a dit, mais non, ce sera pas une imitation, ce sera juste une évocation. Et une évocation de la Joséphine de la fin, c'est-à-dire plutôt de l'Olympia en 68 ou Bobineau en 75, qui a vécu toute sa vie, qui est un peu fatiguée, qui a eu tous ses soucis avec... et justement, montrer la femme et tout le parcours de la femme. Et dans ces conditions-là, j'ai dit, ok, on fait ça comme ça, c'est-à-dire que on essaye de trouver le point de jonction entre Joséphine et moi et lui rendre, finalement, pour moi, c'est un hommage à cette femme.
Vous êtes une chanteuse métisse.
Oui.
Et les scènes d'opéra sont encore majoritairement blanches.
Oui.
Comment s'est fait donc le point de jonction dont vous parlez entre vous et Joséphine Baker? Est-ce que c'est une figure à laquelle vous vous identifiez?
Oui, beaucoup. Bon, évidemment, elle est métisse comme moi, mais c'est surtout par son caractère, son extrême générosité, son extrême empathie, son amour de la scène, sa... Joséphine, même à la fin, quand elle montait sur scène pour récolter de l'argent, on sent quand même, elle irradiait sur scène. Et je pense que c'est ça le point commun, moi, qui m'a amenée au chant et à l'opéra, c'est cet amour de la scène, cet amour de monter et de partager avec le plus de monde possible. Donc, il y avait ça. Et puis, c'est une personnage très complexe et en même temps d'une cohérence extrême entre ses idéaux de fraternité, d'amour, et son amour de la France, et toute sa vie, elle a été honnête, droite, jusqu'au bout, avec ses enfants, avec son idée de fraternité universelle, qu'elle a essayé d'amener, que ce soit aux États-Unis, avec la marche des droits civiques, avec Martin Luther King, et dans sa propre famille. C'est-à-dire qu'elle a mis en œuvre cette magnifique idée de fraternité, justement, avec ses enfants qu'elle a adoptés de tous les pays différents, pour montrer qu'on était tous de la même race, c'était la race humaine, et il n'y en avait pas d'autre en fait.
Et donc ce spectacle Joséphine Baker, Paris mon amour avec l'ensemble Contraste, comme vous le disiez, il s'inspire du tour de chant de Joséphine Baker en 68 à l'Olympia. Quelle est la particularité de ce concert dans la carrière de Joséphine Baker? Est-ce que c'est un moment clé, un tournant dans son parcours à elle?
C'est un tournant, enfin, ça fait longtemps qu'elle n'est pas montée sur scène, elle avait très peur que le public l'ait oubliée, et là elle a eu justement la preuve que non, enfin, tout le monde, tout Paris était là. C'était particulier parce que c'était un moment difficile, c'était le moment où elle essayait de sauver son domaine en Dordogne, et ce concert c'était évidemment aussi pour récolter de l'argent, mais pour le plaisir de remonter sur scène. Donc c'est un mélange de grand bonheur à mon avis pour elle, et aussi de tristesse et d'un moment de grande difficulté pour elle en 68, parce que malheureusement les Milan vont être vendus aux enchères en 68 justement.
Et est-ce que c'est une cohérence que vous retrouvez dans son répertoire?
Oui, dans ce répertoire, bon, évidemment elle choisissait des choses pour plaire au public. Alors là, dans ce récital, il y a ses propres chansons, évidemment, « J'ai deux amours », quand je pense à ça, enfin, avec des choses comme ça très connues. Et elle reprenait aussi beaucoup de chansons, elle a repris La vie en rose, elle a repris beaucoup de chansons des standards de l'époque, même des standards de jazz, Hello Dolly, enfin, c'était vraiment une meneuse de revue exceptionnelle, avec ce sourire toujours inoxydable. Et elle disait aussi au début de sa vie, et je pense que ça a été valable toute sa vie, c'est que on lui reprochait au début d'être trop maigre, laide, etc. Mais elle a toujours dit que oui, peut-être qu'elle était laide, mais ses yeux étaient beaux et son corps était intelligent. C'est pas beau ça?
Est-ce que vous nous chanteriez quelque chose?
Une petite évocation pour rester dans cette idée-là. J'ai deux amours.
toujours, mon cœur est ravi. Ma savane est belle, mais à quoi bon le nier? Ce qui m'en sort, c'est Paris, Paris tout entier. Le voir un jour, c'est mon rêve joli. J'ai deux amours, na, 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 na. Mon pays, c'est Paris.
Mon pays, c'est Paris, dans la dernière version qu'elle en avait donnée, Pape Ndiaye, Joséphine Baker, l'icône noire, c'est prendre en compte aussi ces deux facettes. C'était à la fois une vie d'artiste à casser les codes sur scène et aussi un engagement militant qui va vraiment se confirmer après-guerre, qui a été une période rupture pour elle. On sait qu'elle a été agent du contre-espionnage, engagée pour la France libre. Mais son engagement militant, et notamment pour les droits civiques aux États-Unis où elle va retourner, est très important. Elle dira d'ailleurs de la marche en 63 que ce jour était le plus beau de toute sa vie.
Oui, en effet, c'est après-guerre qu'elle s'engage politiquement, dans la continuité d'ailleurs de son engagement si courageux de la guerre que vous avez rappelée. Et puis c'est le mouvement pour les droits civiques. Elle se rend aux États-Unis au début des années 50, où son succès d'ailleurs comme artiste n'a jamais été aussi comparable à celui de la France. Hein. Ça n'a jamais très bien marché, Joséphine Baker, aux États-Unis, pour plein de raisons, y compris parce que c'était une femme noire avec cette personnalité-là. Et elle s'engage très courageusement. Ses déclarations sont sans aucune ambiguïté dès le début du mouvement pour les droits civiques. Et elle devient une des compagnes de route, si je puis dire, de King, jusqu'à l'accompagner et être à ses côtés d'ailleurs lorsque King donne son fameux discours « I have a dream » en août 1963. Il est possible d'ailleurs que la voix que l'on entend à un moment donné dans le discours de King, lorsque King fait cette première partie de son discours, et puis il s'aperçoit que, bon, c'est une première partie qu'on a oubliée aujourd'hui, puis on s'aperçoit que la foule attend plus, et puis une voix féminine lui dit « Allez, vas-y Martin, continue ». C'est là qu'il se lance dans « I have a dream » en improvisant parce que il doit dire quelque chose. Il est possible que ce soit Joséphine Baker, justement. Donc c'est vraiment une figure importante qui a pris des risques aussi, sa proximité avec Castro et disons le monde communiste à partir de la fin des années 60 lui attire aussi beaucoup d'inimitié, et en même temps elle adore le général de Gaulle, elle manifeste aux côtés du général de Gaulle ou des gaullistes en 68 contre les 68ards. Bref, elle a une personnalité politiquement très composite, marquée cependant par le courage et l'indépendance.
Politiquement et artistiquement, c'est pour ça, parce que cette figure était entière et complète, que vous êtes en train, même si elle avait ses ambiguïtés, de rédiger une biographie à son sujet. On vient d'apprendre ça, apparaître donc prochainement. Merci beaucoup, Pape Ndiaye. On reçoit dans une vingtaine de minutes, j'aurai pas le temps de vous en faire parler, mais j'imagine que vous la connaissez bien, Nell Irvin Painter, qui est une des pionnières des whiteness studies, comme on dit, vous qui traversez régulièrement l'océan et travaillez à la fois aux États-Unis et en France. Elle va nous raconter une histoire des Blancs à travers cet essai qui vient de paraître chez Max Milo.